Alors, je voudrais reprendre un petit peu le fil de ce qu'a dit Tony, en partant d'une remarque sur l'abondance des références au droit et à la généalogie du droit occidental qui ont émaillé son propos, c'est le moins qu'on puisse dire, il en a été question sans arrêt. Et je crois que c'est assez important, parce qu'il est impossible de poser la question du passage du public au commun sans poser la question du droit. Je serais même tenté de dire, pour dire les choses d'emblée de façon très directe, ce qui d'ailleurs est en général mon habitude, que la question du passage du public au commun est d'abord et avant tout une question de droit. Le public est une catégorie juridique, et il nous paraît que le commun est également une catégorie juridique, de telle sorte que le passage du public au commun pourrait se comprendre comme le passage d'un régime juridique à un autre. Mais ceci étant posé de manière liminaire, il faut dissiper tout de suite, je crois, un malentendu concernant cette notion de droit. Il est de tradition, dans une certaine interprétation de la pensée de Marx, de considérer que finalement le droit n'est qu'un déguisement, une façon de masquer idéologiquement des rapports de domination. Il est dans cette tradition une habitude extrêmement fréquente, persistante et récurrente qui consiste justement à considérer que le droit est, dans le meilleur des cas, la reconnaissance post factum, c'est-à-dire après coup, de rapports de force existants, par exemple entre les classes sociales ou les forces sociales. Et je crois que ce qui est important dans la manière dont nous essayons de poser aujourd'hui cette question du passage du public au commun, c'est justement de rompre avec ce travers qui a trop longtemps fait obstacle à la pensée politique et philosophique à gauche. Et à cet égard, je crois qu'il faut tâcher de frayer la voie à une nouvelle pensée du droit, qui soit justement une pensée du droit indépendante de l'État. Je pose d'emblée donc le cadre à l'intérieur duquel se situera mon intervention en précisant que pour moi, un régime juridique ou une catégorie juridique ne doit pas être abordé de façon abstraite, mais être articulé à des rapports, à des relations qui sont en effet des rapports et des relations de nature sociale. Je commence d'abord par mettre en évidence deux obstacles à cette position de la question du passage du public au commun. Le premier obstacle a été non seulement évoqué, mais traité par Tony Negri, je n'y reviens pas, c'est l'obstacle qui consiste à tout enfermer dans une opposition en vis-à-vis, en quelque sorte, entre l'État, d'un côté, et le marché. On identifie l'État et le public, ce qui n'est pas très difficile, et on est amené ensuite à identifier le privé au marché, et on considère par conséquent que la seule opposition consistante, c'est celle de l'État ou du public, d'une part, et du privé ou du marché, d'autre part. Il est évident que dans le cadre d'une telle problématique, le commun fait figure de tiers un petit peu encombrant, et il est même marginalisé d'emblée, et il est intéressant de noter que c'est une démarche qui est très fréquente, à gauche en particulier, encore aujourd'hui, et je crois que ça vaut la peine d'être mise en question. On y reviendra dans la discussion, mais j'annonce en quelque sorte la couleur, très directement, ça me semble constituer un véritable obstacle théorique et politique. Le deuxième obstacle, c'est un obstacle qu'on trouve en particulier développé par Hannah Arendt dans « Conditions de l'homme moderne », c'est un obstacle qui consiste purement et simplement à identifier le commun et le public, en disant que finalement, le public, c'est le domaine public, par opposition justement au domaine privé. Le domaine privé, c'est le domaine qui est celui de la propriété. Le domaine public, c'est le domaine qui est celui de la cité politique. C'est l'enceinte de la cité politique. Et ce domaine-là est précisément le domaine, finalement, qui est celui de l'être ensemble ou du vivre ensemble, comme elle le dit à plusieurs reprises, de telle sorte que finalement le public et le commun ont le même contraire direct, et ce contraire direct c'est le privé, dans la mesure où ils ont le même contraire direct, finalement ils sont indiscernables. Et dans la mesure où précisément le public et le commun s'identifient, la question du passage du public au commun n'a strictement plus aucun sens. Elle est donc tout simplement disqualifiée et mise hors jeu. Donc je crois qu'il y a là deux obstacles fondamentaux, mais je pense qu'il est nécessaire de reprendre à nouveau frais cette question justement de la place du commun. L'objectif est très simple, il s'agit de préciser en quoi, finalement, c'est le commun qui est le véritable enjeu. Il s'agit donc de se défaire ou de se déprendre de l'opposition qui veut nous enfermer, justement, dans le cadre d'un affrontement de face à face entre l'État et le marché. J'opérerai dans le propos qui est le mien maintenant en quatre points. Je commencerai par examiner les limites qui sont celles de la définition juridique et politique et même philosophique du public. Dans un deuxième temps, j'examinerai l'impasse, et je fais exprès de dire l'impasse et pas les limites, que constitue la tentative de définition métaphysique du commun qui a été entreprise dernièrement par un certain nombre de gens que, bien évidemment, je nommerai. Le troisième point, en l'occurrence, puisqu'il s'agit ici d'obstacles, en tout cas de tentatives de délimitation pour cerner en quelque sorte le terrain sur lequel doit être posée cette question du commun, le troisième point donc sera relatif à ce qui a été traité partiellement par Tony, c'est-à-dire la question de la res communis, la question donc du commun défini en termes de propriété intrinsèque de certaines choses. En d'autres termes, là aussi c'est un héritage du droit romain, c'est la raison pour laquelle il est impossible de faire l'économie de ces références, c'est la fameuse tripartition entre les choses qui relèvent d'un maître et qui appartiennent à ce maître, les choses qui sont sans maître, et à l'intérieur des choses qui sont sans maître, la res nullius, qui elle n'appartient à personne et qui par conséquent peut être appropriée par n'importe qui, c'est le droit du premier occupant ou de celui qui s'en saisit le premier, et puis d'autre part la res communis dont il a été question et qui est une chose qui appartient à tous, qui est commune à tous. Rapidement je passerai là-dessus, mais surtout je voudrais, dans la mesure où il me semble nécessaire que nous nous penchions sur cette question-là dans le cadre du séminaire cette année, évoquer un courant de l'économie politique américaine représenté par Ostrom et Hess, qui s'est attaché à redéfinir le commun à partir justement de la propriété de certaines choses en élaborant une tripartition, celle des biens privés, des biens publics et des biens communs. Et puis enfin, dernière chose, ce sera la conclusion finalement de mon exposé, en quoi il est nécessaire de renverser complètement la méthode dans l'approche de cette question du commun, c'est-à-dire en quoi il est nécessaire de partir non pas de la propriété intrinsèque de certaines choses ou de certains biens, non pas de la condition qui serait celle des hommes en tant qu'hommes, c'est-à-dire de leur condition de mortel, puisque ça renvoie à la redéfinition métaphysique à laquelle j'ai fait allusion, mais en quoi il est nécessaire de partir de l'activité pratique des hommes. À cet égard, il faut en revenir, je crois, à certains enseignements fondamentaux qui sont consignés dans des textes que vous connaissez, qui s'appellent par exemple l'idéologie allemande ou d'autres, dont on aura l'occasion de reparler, mais je crois que ce renversement est tout à fait indispensable, plus que jamais indispensable aujourd'hui. Voilà comment je compte procéder. Je commence donc directement, je vais très rapidement dire une chose concernant les obstacles. J'en ai parlé et finalement ça suffit pour l'essentiel, en tout cas du point de vue du contenu, mais je crois qu'il est assez important de comprendre qu'il y a un jeu d'opposition, en fait, dans le maniement de ces termes, que tantôt le commun se trouve opposé au propre, tantôt le commun se trouve opposé au privé, de telle sorte que des gens, souvent, jouent délibérément sur l'ambiguïté ou sur l'équivoque, de manière, finalement, à donner à entendre des choses qui ne sont pas tellement entendables, c'est-à-dire à faire en sorte que la confusion totale, la plus totale, règne à ce sujet. Alors je crois qu'il faut dire les choses de façon assez précise. Quand par exemple Hannah Arendt est amenée à dire « il y a le domaine commun qui est celui de la cité et ce domaine commun est en même temps le domaine public, c'est le monde commun finalement qui est le domaine public », elle sacrifie à cet égard à une telle opposition, dans la mesure où elle dit que le public et le commun qui sont identifiés s'opposent au privé mais également au propre, et elle joue sur une opposition qui existe dans le grec de l'Antiquité entre idios qui signifie le propre et koinos qui signifie précisément le commun. Donc je crois que on a ici un obstacle, peut-être même, enfin non, les deux obstacles sont à mettre de mon point de vue exactement sur le même plan, mais je voudrais entrer dans le vif du sujet en commençant par le premier point, c'est-à-dire par la définition juridique et politique et philosophique du public. C'est une définition qui est très ancienne. Tony a totalement raison sur ce point-là. Nous sommes à cet égard entièrement tributaires de l'héritage du droit romain. Il faut savoir que quand on parle du public, il est assez inenvisageable de ne pas parler du publicum romain et de ne pas parler de la res publica et de ne pas parler par conséquent de la conception que le droit romain se fait de l'État. À cet égard, il est important, me semble-t-il, d'insister là-dessus. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez une sorte de transfert qui est opéré dans le droit romain. On part de l'État, on part de la définition de l'État, et on est amené à transférer certaines qualités, par exemple à ceux qui détiennent une autorité dans l'État, aux fonctionnaires, à ceux qui sont titulaires de charges, titulaires de fonctions, et puis par extension à un domaine, à une certaine forme de propriété, à des biens, à des choses. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement marquant, qui pèse très lourd dans notre héritage. Dans la mesure où on part de l'État, et ensuite, par extension, finalement, des qualités qui appartiennent essentiellement à l'État, on est amené à qualifier ou à caractériser un certain nombre de choses, et on parle à ce moment-là de droit public, par opposition au droit privé, ou d'administration publique, et de fonctionnaire public, et de fonction publique, et de charge publique, etc., etc. Je crois qu'il y a à cet égard un exemple qui est donné par Marx dans les Grundrisse, qui est assez important, qui est celui de ce qu'on appelle l'ager publicus, c'est-à-dire le domaine précisément qui est celui de la propriété de l'État. Ce sont des terres qui ont été arrachées à un certain nombre de peuples lors de la conquête par Rome de l'Italie, et ce sont des terres qui ensuite sont bien sûr confisquées aux vaincus par l'État, qui deviennent, du fait de la déclaration de l'État, propriété du peuple romain. Et dans un premier temps, on est amené à en céder l'usage à des plébéiens. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire de l'État romain se fait de plus en plus importante, au fur et à mesure que cet État se renforce et s'étend, on est amené finalement à concéder à des membres de la nobilitas, c'est-à-dire de la classe supérieure, la gestion et l'usufruit de ces gigantesques terres ou étendues de terres qui ont été confisquées. C'est très important à comprendre. Marx dit dans une remarque qui me paraît très importante que l'ager publicus, donc la propriété d'État, de la terre, c'est l'existence économique particulière de l'État à côté des propriétaires privés. Ce qui me paraît important, c'est le « à côté ». C'est le fait que, justement, il n'y ait absolument pas de contradiction de principe entre le privé et le public à cet égard. Mais que le public et le privé existent côte à côte, c'est-à-dire coexistent. Je serais même tenté de dire que, dès l'origine, le public a besoin du privé pour se constituer comme tel. Il trouve dans le privé sa propre limite constitutive, et vice-versa à certains égards. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout une opposition de principe, mais au contraire, une dualité ou une partition, qui fait que les deux pôles sont strictement complémentaires. Et je crois que dans l'héritage philosophique qui est celui de l'Occident, on trouve une élaboration, bien sûr, qui va au-delà de la catégorie de public, on la trouve par exemple chez Rousseau, mais pour l'essentiel, elle reprend des traits qui appartiennent à cet héritage du droit romain. On va définir le public comme étant la communauté, on va opposer le public ou la communauté au particulier et au privé, et on va construire à partir de là toute une philosophie de l'État dont il est important de considérer, surtout en France, qu'elle a marqué politiquement et culturellement et intellectuellement pendant des décennies l'histoire de notre pays. Je voudrais à cet égard mettre en évidence trois limites qui me paraissent importantes. D'abord, deux limites qui sont des limites conceptuelles. Lorsqu'on est amené à parler du public de cette manière-là, comme d'une personne morale ou d'une personne publique, en général, on est amené à faire en sorte que le public ainsi conçu se rapporte à ce que j'appellerais l'élément politique de la communauté, c'est-à-dire aux citoyens. Le rapport du public aux citoyens. Première limite. Deuxième limite, le rapport du public aux autres publics. C'est la question classique qui est celle de la souveraineté interétatique. La question classique de savoir jusqu'où peut aller la puissance ou jusqu'où peuvent aller les prérogatives qui sont celles, justement, d'un public particulier dans son rapport aux autres publics particuliers. Et puis, une troisième limite qui est une limite d'ordre historique et politique qui est relative à ce qui se passe aujourd'hui, aux transformations de l'État qui sont en cours. Pour ce qui est de la première limite, les choses sont relativement simples. Dans la théorie moderne du public, on présente les choses comme si le public était constitué des citoyens. Donc il n'y a jamais d'opposition possible entre le public et les citoyens, puisque les citoyens constituent le public et le public n'est rien sans les citoyens. Mais il y a ce que j'appelle un point aveugle dans la théorie rousseauiste du public, qui est justement la place de l'administration. Et en particulier, vous avez un article de Rousseau dans l'encyclopédie de Diderot, qui s'appelle « Économie politique », dans lequel ce point aveugle apparaît de façon, me semble-t-il, très manifeste. La question de la place et du statut de l'administration publique, notamment, justement, dans l'économie qui relève du public, qu'il appelle « économie publique » pour la distinguer de l'économie domestique ou de l'économie privée, cette question-là reste absolument non résolue, elle n'est même pas posée. Or, la question est simple, la question c'est celle de la place que constitue, qui est celle plutôt de l'administration comme corps particulier. Cette place de l'administration comme corps particulier fait surgir la possibilité d'un conflit. Derrière la fiction, l'État, c'est nous, en réalité, ce qui est en cause, c'est le monopole de l'administration étatique, le fait qu'elle échappe au contrôle des citoyens. La deuxième limite, qui me paraît importante, c'est une limite donc qui concerne la question des relations avec les autres souverains, avec les autres puissances, comme dit Rousseau dans le contrat social, ou avec donc les autres publics ou les autres communautés politiques. Et là encore, on peut suspecter l'universel dont parle Rousseau, puisqu'il identifie le général, l'universel, le public et la communauté, on peut le suspecter d'être, atteint de particularisme. C'est un universel qui est un universel particulier, parce qu'il s'identifie à un État-nation, dans sa relation avec les autres États-nations. Et il me semble qu'à cet égard, on doit s'interroger. On ne peut poser le public comme catégorie juridique et politique que dans sa relation à d'autres publics. Et encore une fois, même s'il n'est pas besoin d'insister sur certaines formules un petit peu curieuses du contrat social, la patrie est dure aux étrangers, par exemple, il est quand même important de relever que cela se trouve impliqué dans une telle façon de poser la question du public. Donc je crois que ce sont là des choses importantes. La troisième limite, c'est la limite historique et politique. Les transformations en cours dans l'État ne sont pas l'effet d'une pression exercée de façon extérieure par une gigantesque entité qui s'appellerait le marché. Les transformations de l'État sont le fait même de l'État. Les transformations de l'État sont des transformations de l'État à l'initiative de l'État. Et ceci se passe depuis au moins 30 ans. C'est la raison fondamentale pour laquelle il me semble complètement déplacé de tout enfermer, justement, dans l'opposition stérile entre l'État d'un côté et le marché de l'autre. On a donc une transformation, une auto-transformation de l'État qui est rendue possible par le monopole de l'administration étatique. Il faut dire les choses de façon, me semble-t-il, très directe et très nue, et je crois que c'est important justement pour réfléchir dans le cadre qui est celui du séminaire. Alors, deuxième chose, j'irai beaucoup plus rapidement sur le deuxième et le troisième point pour me concentrer sur le dernier. Mais deuxième point, la question de la redéfinition métaphysique du commun. Alors là, je n'irai pas par quatre chemins et je nommerai les gens, je l'ai dit. Il s'agit essentiellement de Roberto Esposito et il s'agit également de Jean-Luc Nancy. Et je dis les choses d'autant plus directement que Jean-Luc Nancy. Alors Jean-Luc Nancy, c'est Vérité de la démocratie et Esposito, vous avez deux livres, Communauté d'un côté, puis Communauté immunité et biopolitique de l'autre, qui est le plus récent. Bon, je crois que là, il faut pas mâcher ces mots. Je crois qu'il est salutaire d'en revenir au ton polémique qui était celui de Marx contre les métaphysiciens idéalistes. Je le dis de manière très directe, là aussi. Il y en a assez d'entendre des gens se draper dans le drapeau du communisme en disant que le communisme, ça consiste à assumer notre condition de mortel. Je crois que c'est quelque chose... mais pour moi, c'est de l'ordre de l'excès presque nerveux, le fait de prendre connaissance de telles propositions. Alors je dirais, on trouve en effet, dans les livres auxquels je viens de faire référence, des propositions de ce genre. Il y a des perles, bon, mais j'en cite une en particulier, celle de Jean-Luc Nancy, je n'ai pas une préférence particulière pour lui, sur les deux auteurs que je viens de mentionner, mais il y a une petite note dans laquelle il polémique, il croit utile de polémiquer contre Badiou, il dit « Attention, le communisme n'est pas une hypothèse, surtout pas. Le communisme est un fait. » Le communisme est un donné. Il va plus loin, il dit, le communisme est notre donnée première. Ah oui, évidemment, puisque pour lui, le communisme, c'est le fait d'avoir en commun d'être mortel, c'est-à-dire la vieille métaphysique de la finitude, et il ajoute à ce moment-là, puisque c'est la donnée première, eh bien, c'est une donnée première qui est en même temps une exigence. Donc c'est très bien, nous sommes toujours déjà en commun, et nous avons toujours déjà à être en commun. Voilà. On peut dire que c'est une sorte de pirouette, alors là je n'hésite pas à le dire, une généralité à laquelle il faut tordre le cou. Il y en a assez, à cet égard, justement, de ces revendications du terme de communisme qui, finalement, font passer en contrebande la vieille métaphysique idéaliste de la finitude, qui trouve sa source chez Heidegger. Il faut dire les choses de manière assez directe. Alors, concernant le troisième point, c'est-à-dire l'économie politique des communs, je ne reviens pas donc sur la question de la res communis, mais je crois qu'on a une tentative qui est assez intéressante à bien des égards. Et là, je parlerai de limites, je ne dirai pas impasse, contrairement justement à la définition métaphysique du commun. Mais il y a des limites, pourquoi ? Parce qu'on part encore des choses. Alors, vous voyez, du point de vue de la démarche, dans un premier cas, on part d'un être donné qui est celui de la condition des hommes. Dans l'autre cas, on part d'un être donné qui est donné à une certaine catégorie de choses. Et on dit de ces choses que justement, elles ont pour propriété de ne pas être appropriables à titre privé. Et dans cette mesure-là, on dit justement que ce sont des biens communs. Et dans la mesure où ce sont des biens qui sont par nature communs, on pense que dire cela, ça va justement imposer aux hommes une certaine obligation, justement une obligation de se limiter ou de s'arrêter. Alors je crois que c'est une limite dans la mesure où il me semble que la question du commun ne peut pas être posée à partir de l'examen des caractéristiques intrinsèques d'une chose. Fut-elle un bien produit par les hommes ? Il me semble donc, pour aller très vite, que le renversement qu'il faut procéder, c'est un renversement qui consiste à dire que le commun ne peut pas être fondé sur une essence ou un être donné, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Que ce soit l'essence humaine, que ce soit l'être donné, l'être en commun, l'être que nous avons en commun qui est d'être fini, comme dit Esposito, la communauté du manque, la communauté du défaut, la communauté de la faute originelle, puisqu'on trouve également ce genre d'expression dans l'ouvrage d'Esposito, il n'y a pas d'être donné et il n'y a pas d'essence qui puisse faire l'économie d'une réflexion sur le fait que le commun ne peut que procéder de l'activité pratique des hommes. Cette nécessité-là, je crois qu'il faut l'avoir présente à l'esprit quand on réfléchit sur le commun. Et je dirais très rapidement que il s'agit de penser donc l'activité des hommes, l'activité des individus, l'activité pratique des individus, et de penser le commun donc à partir de cette activité. Ça peut se faire, me semble-t-il, de deux manières. On essaie de nous enfermer dans une espèce d'alternative entre l'être et l'avoir. Donc grosso modo, l'avoir ce serait une certaine économie politique des biens, et puis l'être ce serait la redéfinition métaphysique de notre être, de notre condition. Mais je crois que c'est une simplification, c'est une alternative qui est complètement trompeuse. Il faut considérer, me semble-t-il, deux niveaux. Alors, peut-être que le terme de niveau est impropre, mais je le risque. Il faut considérer deux niveaux. Il y a premièrement ce qu'on pourrait appeler des activités ou des pratiques de mise en commun, qui ne sont pas spontanées, qui doivent être construites, en particulier sur la durée, qui doivent s'épauler, se conforter mutuellement. Des pratiques sociales de mise en commun, ça existe. Même un piquet interprofessionnel, par exemple, lorsque des enseignants viennent prêter un renfort à des gens qui bloquent des raffineries, c'est une pratique sociale de mise en commun. Toutes les pratiques sociales de résistance à la gouvernementalité néolibérale sont, lorsqu'elles sont vraiment des pratiques de résistance, des pratiques de mise en commun. Voilà un premier niveau qui me paraît très important. Une pratique de mise en commun qui procède toujours d'une intelligence collective in actu, c'est-à-dire d'une intelligence collective en acte. Chaque fois qu'il y a des pratiques sociales de mise en commun, il y a justement quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective qui permet à ces pratiques de se développer et de vivre. Et puis, il y a, me semble-t-il, un deuxième niveau. Et je voudrais que, en tout cas, je pense pour ma part, je n'engage personne, mais je m'engage moi-même, je pense pour ma part qu'il faut distinguer rigoureusement les deux niveaux. Que toute la difficulté peut-être du travail de notre séminaire, c'est de réfléchir à l'articulation de ces deux niveaux. Et ce deuxième niveau, c'est celui de ce que j'appellerais l'activité, ou plutôt l'agir instituant. L'activité, par conséquent, d'institution du commun. Il y a des pratiques sociales de mise en commun, d'un côté. Il y a justement une activité commune visant à instituer le commun. Alors, qu'est-ce que j'appelle activité ou agir instituant ? Je crois que il vaut la peine... Bon, Tony le sait bien mieux que moi. Ça fait encore plus longtemps qu'il utilise le terme d'institution, il a utilisé celui de constitution, ce sont des termes qui sont abominablement difficiles à définir, mais je crois qu'il faut avoir le courage d'essayer de penser ce que c'est que l'institution. Non pas en pensant à ce que nous étions très nombreux à penser dans les années 68-70 concernant l'appareil répressif de l'État, puisque nous mettons, en général, nous mettions cela derrière le mot institution, mais il faut penser l'acte d'instituer. Il faut réfléchir à la question de savoir ce que signifie l'acte d'instituer. Et il me paraît à cet égard que cette notion est délicate, parce qu'elle implique, premièrement, que l'institution ne soit pas une création à partir de rien. Mais deuxièmement, elle implique également que l'institution, l'acte plutôt d'instituer, ne soit pas la reconnaissance après coup de pratiques qui existent déjà. En d'autres termes, ça n'est pas la même chose que la consécration par un droit coutumier de certaines pratiques préexistantes. Ça n'est pas ça l'institution. En son temps, un certain Castoriadis avait essayé de penser cette question de l'institution. À mon avis, en tirant un peu trop, la ligne de pensée vers la question de la création ou de l'invention par l'imagination, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant, et je crois que c'est important à considérer cette dimension de l'institution. Si on institue, la question est de savoir comment on institue, c'est-à-dire la question est de savoir quelles sont les modalités ou les formes de l'institution. Il me paraît, à cet égard, qu'on ne peut justement pas, et je reviens au début de mon exposé, évacuer la question du droit. L'institution du commun, ça ne peut être que la coproduction des normes juridiques du commun. Et la coproduction des normes juridiques du commun, ça signifie que c'est une coproduction qui engage tous les coproducteurs. Mais une coproduction collective, commune, des normes du commun, ça signifie que l'acte d'instituer le commun doit être lui-même commun. Sinon, il y a une contradiction. Si l'acte d'instituer le commun est l'apanage de quelques-uns, fussent-ils des professionnels du droit, à cet égard, les choses sont très mal parties, pour le commun lui-même et pour nous par conséquent. Donc je crois qu'on doit mettre l'accent sur le fait que c'est un acte de production de normes, des normes, pas des lois, des normes juridiques, pas des lois. Et à cet égard, je crois qu'il faut récuser une certaine posture, comment pourrait-on dire, assez courante là également aujourd'hui, qui est une posture de critique libérale du néolibéralisme, qui consiste à dire, vous voyez, le néolibéralisme fait un usage purement tactique de la loi, parce qu'il utilise des lois à des fins qui sont celles de dresser les individus pour leur faire intérioriser un certain nombre, justement, de règles. Nous, nous devons revenir à la majesté juridique de la loi, de la lex, la majesté juridique de la loi, tourner contre l'utilisation tacticienne de la loi. Je pense que c'est une impasse totale. Je pense que justement, les normes juridiques, il faut les penser non pas comme des lois, mais comme étant l'ouverture d'un cadre complètement inédit, dans la mesure où ces normes-là doivent faire prévaloir une égalité qui n'est pas l'égalité devant la loi, qui est l'égalité dans la coproduction de normes qui ne sont pas des lois, c'est-à-dire l'égalité dans la coproduction de normes qui sont non étatiques. Voilà, j'en reviens par conséquent au point de départ de mon exposé.